Bonjour à toutes. Merci Seigneur pour ce temps de louange, ce temps passé dans ta présence. Et merci à tes serviteurs d'avoir pu être les canaux bien disposés pour que tu puisses aussi nous parler ce matin. Encore prendre un petit temps de silence. Seigneur Jésus, nous savons que si nous sommes venus ce matin, c'est avant tout pour te rencontrer, pour te parler, pour t'entendre. Nous voulons disposer nos cœurs, Seigneur, et dans les profondeurs de nos êtres, nous voulons simplement te dire que nous t'aimons. Seigneur, nous sommes disposés à écouter ce que tu as à nous dire. Merci pour ton Saint-Esprit qui vit en nous. Merci Seigneur. Amen. J'aimerais qu'on lise ensemble l'histoire d'une femme qui nous est racontée par Marc l'évangéliste au chapitre 5. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Luc, l'évangéliste, va même dire, lui qui était médecin, que sa maladie était incurable. C'est dire que cette femme, finalement, elle avait usé de tous les stratagèmes qui étaient mis à sa disposition, même si elle faisait face à des charlatans, elle avait tout usé, tout épuisé, et rien n'avait fonctionné. Elle avait sûrement dépensé beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, beaucoup d'espoir. Ayant entendu parler de Jésus, au verset 27, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang, l'origine de cette perte de sang, telle que le texte en grec le dit, s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se détournant au milieu de la foule, il dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois bien la foule qui te presse. Et tu dis qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a préservée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus lui dit qu'elle est guérie complètement, qu'elle n'a pas à se soucier d'un nouveau, peut-être retomber juste à cause de ce mal, peut-être une guérison temporaire. Il lui dit, « Tu es complètement guérie. » Va en paix. Cette femme avait un mal qui était source d'impureté aux yeux des Juifs. Elle ne pouvait pas se tenir en présence d'un prêtre, d'un rabbin. Encore moins le toucher. Il fallait qu'elle soit à distance, il fallait qu'elle puisse se protéger, il fallait qu'elle fasse différentes choses. Et les gens eux-mêmes ne la touchaient pas. Aujourd'hui, si on veut faire un comparatif, ça pourrait être quelqu'un peut-être qui serait séropositive. Ou qui aurait une maladie extrêmement contagieuse peut-être, un peu comme la lèpre, peut-être aussi pour l'époque. Parce que la pensée, c'est que l'impureté de l'autre pourrait me toucher. L'impureté de l'autre pourrait me contaminer. Ce n'est pas juste un petit mal, c'est une impureté qui, derrière, a une conséquence grave, c'est que je ne puis plus être agréable à Dieu. Quelque chose en moi est peut-être la source de ce mal. Peut-être avait-elle tourné dans sa tête toutes les raisons pour lesquelles elle était malade. Mais au final, elle a arrêté son petit moulin, elle a arrêté son petit schéma, son petit scénario peut-être, si elle en avait eu un. Peut-être que moi, à sa place, j'en aurais eu certainement un. Peut-être n'en avait-elle pas, peut-être elle voulait simplement être guérie. Mais elle avait reconnu que Jésus pouvait la guérir. Elle avait reconnu qu'en s'approchant de lui, même en touchant juste le bout de son vêtement, elle pouvait être guérie. Elle pouvait finalement être sauvée de son mal. Jésus dit quand même une parole qui est très forte. Ta foi t'a sauvée. Si cette femme n'avait pas agi par foi, aurait-elle été guérie? Je laisse la question en suspens. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. J'aimerais ensuite maintenant raconter l'histoire d'un autre personnage et qu'on retrouve un tout petit peu plus tôt. Toujours dans Marc, chapitre 5, versets 21 à 24. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Et lui adressa cet instant de prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Nous sommes encore face à quelqu'un qui était peut-être dépassé. Peut-être espérait-il que sa fille se remette, mais voyant que finalement le mal qu'elle avait était tellement grave, il a décidé de faire peut-être quelque chose qui était contraire à ce que tous ses amis pharisiens ou du moins ses amis rabbins, peut-être lui disaient « Attention !» Cet homme, ce Jésus, n'est peut-être pas digne de confiance. Peut-être veut-il attirer les foules à lui. Il veut encore nous priver de notre capacité de pouvoir enseigner. Nous avons pleine autorité de la part du Seigneur. Qui est cet homme-là? C'est un faiseur de miracles, mais peut-être que c'est un charlatan. Mais Jaïrus a choisi de faire fi, peut-être, de tout ce qui lui était raconté. Cette crainte des hommes, de la même manière que cette femme, cette crainte des hommes, peut-être même cette crainte des autres croyants. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire si je vais voir Jésus? Moi en plus qui suis un chef d'église, de synagogue, qu'est-ce que je vais être face à, toutes ces personnes, à tout ce monde qui est là, qui va me reconnaître? Est-ce que mon statut vaut plus que la vie de ma fille? Il s'est empressé d'aller se jeter aux pieds de Jésus. Il a reconnu en Jésus que sa fille pouvait être sauvée si Jésus agissait, si Jésus venait lui imposer les mains, si Jésus venait faire ce que lui seul apparemment pouvait faire, là, parce que des miracles se passaient et sa fille était malade. Souvent, on est rencontré par des problèmes, Je dis bien on est rencontré par des problèmes, parce que ce n'est pas nous qui choisissons d'aller vers des problèmes. Parfois si, mais parfois certains problèmes viennent à nous, on ne sait pas comment. Et ces problèmes viennent un peu nous bousculer dans nos principes. Et lorsqu'il y a des questions comme celle-ci que vient rencontrer Jaïrus, nous sommes bien désemparés. Nous sommes bien désemparés. Et à Jésus, nous pouvons aller. Est-ce que j'ai peur du regard des autres ? Est-ce que j'ai peur du regard des autres, notamment dans l'Église ? Je pense que la crainte des hommes nous touche dans notre assemblée. D'une manière ou d'une autre, on est tous différents. Parfois, nous préférons aller voir Jésus en cachette, mais devant tout le monde. Qu'est-ce que les autres vont dire ? Maintenant, la suite, on l'a lu juste avant. La suite, c'est cette femme qui vient au milieu de la foule et qui touche le manteau de Jésus. Jaïrus est toujours là. Jésus faisait route avec Jaïrus pour aller dans sa maison, pour prendre soin de sa fille, pour la rétablir de son mal. Jaïrus doit faire pause et attendre. Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Et là, qu'est-ce qui se passe dans la tête ? Peut-être faudrait-il qu'il se dépêche. Mais s'il prend son temps, est-ce que du coup, la guérison va être pour quelqu'un d'autre et moi, ma fille ne pourra pas être guérie ? Quels sont les discours qui viennent ? Quelles sont les pensées ? On lit au verset 35 : comme il parlait encore, comme Jésus parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître ?» Ai-je douté ? Est-ce que quelqu'un a pris ce qui me revenait, ce qui revenait à ma fille ? Peut-être aussi, peut-être que cette femme était peut-être prioritaire pour Jésus. Peut-être que ma fille, finalement, pour Jésus, peut-être qu'elle est d'un second plan. Peut-être que cette femme attendait depuis plus longtemps, peut-être qu'elle mérite. Tout est fichu. Et là, on vient de me dire que ma fille est morte. Tout est fichu. Et pour nous, c'est peut-être ce que disent les autres est vrai. Peut-être que je dois accepter ma situation. Peut-être que je dois accepter que cette partie de ma vie est morte. Quelles pourraient être les situations que je rencontre ? Ça pourrait être très simplement une maladie, avec même un verdict médical, un examen, quelque chose à venir. Ça peut être une situation financière, difficile, une situation aussi dans mon lieu de travail, dans mon voisinage, où j'ai le sentiment d'être dépassé. Ça peut être aussi une relation familiale, avec mon mari, avec ma femme, avec mon père, ma mère, mon frère, ma sœur, ou encore mon fils peut-être, ou ma fille, mon petit-fils, ma petite-fille. Peut-être que j'ai tout essayé. Peut-être que comme cette femme qui avait cette perte de sang, peut-être que j'ai tout essayé par moi-même, peut-être que même je suis allé voir des charlatans en pensant qu'ils allaient peut-être m'aider. Puis je suis venu à Jésus. Merci Seigneur, il a guéri ma vie. Merci Seigneur, il a pris soin de moi. Merci Seigneur. Mais là, j'ai toujours un problème. Et peut-être même, suis-je en attente. Et j'entends une petite voix qui me dit, c'est mort. ne dérange pas le maître. Peut-être même y a-t-il un objectif pour moi, ou plutôt une date limite que je vois. Et je vois cette date limite comme étant le couperet par lequel je ne pourrai pas échapper. Et je me dis, c'est mort, je ne vais pas déranger le maître. Verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Sans tenir compte de ces paroles, Jésus sait ce que les paroles peuvent amener dans nos têtes, dans nos pensées, et comment cela peut nous faire vaciller aussi dans notre foi. Nous sommes petits, faibles. Et notre foi, que nous pensons parfois si grande, est si petite et si faible. Seigneur, prends pitié de nous. À tes propres disciples qui t'ont vu marcher, qui t'ont vu faire des miracles, tu leur as dit, mais avez-vous la foi ? Seigneur, on a d'autant plus besoin de toi. Sans tenir compte de ses paroles. Jésus nous dit, encore aujourd'hui, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Dans ces paroles-là, il y a un investissement. Nous sommes entre deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Il y en a un qui est un royaume impérissable, qui durera éternellement, l'autre qui est voué à la perte et qui finira en enfer. Il y a un royaume où la monnaie de ce royaume, c'est la foi. L'autre est un royaume où la monnaie de ce royaume, c'est la peur. Où est-ce que je mets mon investissement ? Où est-ce que je mets mon investissement ? Et c'est une question que je me pose à moi-même, Pierre-Antoine, où est-ce que je mets mon investissement ? J'entends les paroles qui viennent à gauche et à droite. Où est-ce que je mets mon investissement ? Est-ce que j'investis dans le royaume de Dieu ? Par ma confiance en Dieu ? Ou est-ce que j'investis dans le royaume des ténèbres ? Parfois malgré moi, parce que c'est ma réponse immédiate, par ma crainte et par ma peur. Où est-ce que j'investis ? Où est-ce que j'investis ? On l'a chanté et nous le lisons dans sa parole, c'est Jésus qui est la solution. Notre Dieu Tout-Puissant nous a donné la solution, c'est Jésus. On pourrait dire, mais cette réponse elle est facile. Qu'est-ce que ça veut dire ? Jésus n'est plus là en train de marcher sur la terre. Jésus a fait deux choses. Après être parti, il a fait deux choses. Il a constitué un corps qu'il avait déjà initié sur la terre de son vivant, mais il l'a constitué et il lui a donné son esprit. Nous sommes les membres du corps de Christ. Chacun pour sa part, chacun avec des dons, chacun avec des grâces. Nous sommes les membres du corps de Christ. Et nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous avons Christ lui-même par son esprit qui a décidé d'habiter en nous. Il nous rend complets en lui. Pas seulement moi en lui, mais ensemble en tant que corps. Parce qu'il veut que nous goûtions à la présence de Christ dans l'autre. J'ai besoin de la grâce de Christ en l'autre. Le chemin que le Seigneur nous donne est un chemin pavé d'humilité. Ou si je glisse dessus, parce que mon orgueil est trop gros, je me retrouve très vite à terre. C'est un chemin où j'ai besoin d'accepter, parfois de faire fi de mon ego, parce que enrichir mon ego ne donne rien de bon, à part faire plaisir à ma chair pour un temps. Mais l'Esprit de Dieu qui vit en moi, si j'ai cru que Jésus-Christ est bien mort pour moi, l'Esprit de Dieu qui vit en moi est suffisant pour me conduire. Continuons, versets 37 à 40. Et il permit, Jésus, ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Mais pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Quelle vision Jésus a de ma situation? Apprenons à écouter ce que Dieu nous dit et osons poser la question au Seigneur. Toi, Seigneur, comment vois-tu ma situation? Parfois, le Seigneur nous dira juste « Aie confiance ». Peut-être la situation ne s'améliorera pas particulièrement, ne serait-ce tout de suite. Peut-être ça prendra même plusieurs générations. Mais l'élément qui est important, c'est de demander au Seigneur comment toi, tu vois ma situation. Parce que nous avons besoin de nous accrocher à la parole de Dieu. Nous avons besoin de sonder les Écritures pour voir comment le Seigneur fonctionne. Et comment le Seigneur aussi nous parle à travers cette parole qui est vivante. Comment toi, Seigneur, tu vois ma situation? Suis-je vraiment un cas désespéré, Seigneur? Combien de fois je l'ai pensé pour moi-même, tournant dans mon lit, je ne sais combien de fois. Seigneur, je suis tellement désespéré. Mais telle façon de faire, Seigneur, mais j'en peux plus. Planification, je ne suis pas très bon, Seigneur, mais comment je vais m'en sortir? Seigneur, mais ma discipline, elle est catastrophique. Quand je mets tout en place, 2 semaines plus tard, catastrophe. Je retombe même pire qu'avant, Seigneur. J'ai besoin de ta discipline à toi. Je suis épuisé par moi-même. Et beaucoup ont pu voir, ceux qui me connaissent de très près, que la discipline n'a jamais été vraiment mon fort, mais que mon cœur était comme accroché à la volonté d'avancer avec discipline. Et malgré ce regard que je peux avoir sur moi, le Seigneur a déjà travaillé afin que je sois de plus en plus discipliné par son esprit. Mais comment est-ce que moi je regarde ma situation? Et comment est-ce que Dieu regarde ma situation? Moi, je voyais mon cas comme étant désespéré. Seigneur, tu as déjà fait beaucoup, mais mon cas est désespéré quelque part. Il m'a envoyé une femme disciplinée, organisée, qui aime planifier. Quel cadeau extraordinaire. Donc la solution n'allait pas venir forcément de moi. Surprise. Pourquoi est-ce que je veux souvent être tout suffisant? Pourquoi ai-je si peur de pouvoir me confier dans mes frères et sœurs qui ont des dons et des grâces? Nous avons parmi nous des dons et des grâces qui nous sont donnés avec tellement, tellement de beauté que le Seigneur a faite. Il y a une beauté Dans chacun d'entre nous, il y a une beauté. Comment Jésus voit ma situation? Est-ce que c'est mort? Ou est-ce que ça dort? Si ça dort, comment est-ce que c'est amené à être réveillé? Parfois, on a du mal à parler avec quelqu'un depuis des années. Il y a eu un problème relationnel qui est tombé un coup comme ça. Et on n'arrive pas, on ne comprend pas comment est-ce qu'on pourrait le résoudre. C'était ma part, notamment avec mes parents. Pendant 7 ans, je ne voulais plus, et je leur avais dit, je ne vous dirai plus de choses personnelles de ce que je vis. Je ne vous dirai plus. Je ne vous dirai plus. Parfois, par la colère, on se prive des relations. Combien de temps ils ont prié? Moi, la situation était morte. Combien de temps ont-ils prié pour que la relation soit restaurée? Je ne pouvais plus leur ouvrir mon cœur. Et quand on se voyait, on parlait de choses et d'autres, toujours en surface, mais jamais en profondeur. Et au fond, eux comme moi, nous savions que la relation était avec un fossé. Et il a fallu un miracle. Ils n'ont rien fait de particulier. Il a fallu un miracle. Au fond, ils me l'ont dit, ils avaient confiance que le Seigneur pouvait restaurer cette relation. Le miracle s'est produit et ils ont même été surpris. Et j'aimerais juste qu'on continue à lire ce qu'il s'est passé pour la fille de Jaïrus. Et après, je reviendrai sur mon histoire. Après que Jésus ait dit que l'enfant n'est pas morte mais elle dort, nous lisons au verset 40, « Et ils se moquèrent de lui. » Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et il lui dit « Talita kumi » qui signifie « jeune fille ». Talita, c'est aussi le féminin de « agneau ». C'est un petit nom qu'on peut donner à un enfant. « Kumi », ça veut dire « lève-toi, debout ». Debout, je te dis. Au verset 42, aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Quand il y a quelques années, le Seigneur est venu secouer un peu le cocotier pour me ramener à lui sur le chemin et que je puisse marcher avec conviction, il y a eu un grand étonnement. Mes parents ont vu ce changement avec un grand étonnement. Et la première des conséquences qui s'est passée, c'était cette restauration. Je partageais avec mon père parce que je voulais reprendre la formation entraînement pour une vie stratégique que je conseille évidemment à chacun, notamment jusqu'à 25-30 ans. C'est extraordinaire. On peut toujours la faire plus tard, mais cette formation a pour capacité, du moins c'est le Seigneur qui prend cet outil, comprenez-moi bien, mais de nous confronter dans nos profondeurs tout de suite. Et j'en parle avec mon père parce que c'était un temps d'échange. J'avais décidé en fait de faire ça avec mon père. Au début, je ne le voulais pas, mais j'avais confié ça au Seigneur en disant « Seigneur, je comprends que c'est pour mon bien que tu veux et pour le bien de cette relation que tu veux que je la fasse avec mon père. » Je décide de la faire. On est en septembre. Première rencontre. J'avais déjà vu 2 leçons, et là je le raconte. Les gens qui me connaissent aussi savent que j'aime bien parler, et là je n'ai pas beaucoup arrêté de parler. Mon père ne disait rien. et je voyais ses yeux s'embrumer. Et j'ai parlé comme ça pendant 1h30, non-stop, en lui partageant tout ce que le Seigneur avait fait depuis 2 semaines, dans mon quotidien, dans ma vie, avec mes collègues, avec mon patron, comment est-ce que mes clients étaient bénis, comment est-ce que tout autour de moi a été changé. Mais avant tout, en moi, c'était changé. Mon père s'est juste levé au bout 1h30 de discussion dans la véranda et m'a pris dans ses bras. Et depuis ce jour-là, notre relation n'est plus du tout la même. Talita Kumi. Aux yeux du Seigneur, déjà nous sommes ces petites brebis, ces petits agneaux. Il a un mot d'affection pour chacun d'entre nous. Si nous tombons dans l'orgueil religieux, le Seigneur peut-être pourrait être un peu plus dur. Mais si nous sommes désespérés devant lui, il aura tellement de douceur. Talita Kumi, lève-toi. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans notre situation? Qu'est-ce que Jésus me dit dans ma situation? Quel est son ordre? Quelle est sa parole? Lorsque les moqueurs viennent, parfois c'est pour montrer que la situation est vraiment catastrophique. Si un message d'espoir par le Seigneur, peut-être que notre situation est vraiment catastrophique. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu ou aux yeux du monde? Aux yeux de l'incrédule ou aux yeux de celui qui croit et qui avance avec le Seigneur? Et parfois nous avons aussi un regard incrédule. Et Jésus dit non, il n'y a pas de place pour les incrédules. Il n'y a de la place que pour ceux qui ont la foi, afin qu'ils voient le miracle. Les incrédules restaient à la porte. Vous aurez bruit du miracle. Mais le miracle, je le donne pour ce père, cette mère, et pour mes 3 disciples que j'ai demandé, qui me suivent et qui m'accompagnent là. Mais il y a quelque chose de particulier aussi. Pourquoi Jésus prend des disciples avec lui? Certes, c'est aussi pour qu'il y ait des témoins de ses amis précieux, mais c'est aussi pour que nous puissions voir. Il permet de nous montrer qu'il a choisi des personnes de qualité. Leur vie, peut-être avant, était catastrophique, mais là, en marchant avec le Seigneur, nous sommes devenus des personnes nouvelles. Et nous pouvons aussi nous confier. Quelle est sa parole? Lève-toi dans ta situation. Parfois nous sommes désemparés, nous avons besoin de lire sa parole, de prendre un temps. Et la parole à nous nourrir, pour faire grandir notre foi. Il y a des choses très précises que le Seigneur veut nous dire encore ce matin. Chacun vit des situations qui lui est propre. Chacun dans sa propre vie, chacun dans sa propre famille. En ce moment, nous sommes bien bousculés. Mais le Seigneur nous montre que nous pouvons passer à l'action. Le Seigneur nous demande de nous soumettre les uns aux autres. Il nous dit à travers Paul, dans Philippiens 2, versets 1 à 4, « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Nous ne sommes pas grand-chose. Pourquoi est-ce que je me verrais plus grand qu'un autre? Au contraire, par l'amour qui m'anime, par l'amour qui nous anime, par l'esprit qui nous anime. Ayons cette humilité, revêtons-nous d'humilité. Considérons-nous non pas par nos propres intérêts, mais aussi considérons ceux des autres. Jacques 5, versets 13 à 15, nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en l'oyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Et dans Galates 6, 2, il nous est dit « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Prenons un temps les uns avec les autres. Soumettons-nous les uns aux autres. Dans la prière, demandons aux uns et aux autres la prière. Nous pouvons aussi prendre l'un ou l'autre pour confesser peut-être un péché. Si on a besoin, si on est malade, on peut venir demander une onction d'huile. Le Seigneur nous encourage et même nous exhorte et même nous dit que si nous voulons accomplir la loi de Christ, nous devons porter ensemble le fardeau des uns et des autres. Il n'y a pas que des personnes en responsabilité qui prennent soin que des autres. Mais nous avons reçu une grâce pour prendre soin les uns des autres. J'aimerais qu'on prenne un temps encore dans le silence. On a commencé ce temps dans le silence, on va reprendre encore dans le silence. Et nous voulons simplement sonder le Seigneur, lui poser cette question. Seigneur, tu vois ma situation? Comment toi, Seigneur, tu la vois? Comment est-ce que tu la vois? Seigneur, si une petite voix me dit que tout est mort, et même rigole, je veux la mettre dehors. Elle n'a pas sa place. Chassez l'incrédulité. Chassons l'incrédulité au milieu de nous. Seigneur, parfois nous sommes comme Jaïrus. Nous avons fait un premier pas vers toi. Et alors tu t'approchais vers notre maison, eh bien, quelqu'un a été guéri, ou du moins quelque chose d'autre s'est passé. Il y a eu comme une attente. Et peut-être nous sommes présents dans cette attente aujourd'hui. Seigneur, nous voulons avoir la même foi qui nous a poussés à nous tenir et nous lever vers toi la première fois. Nous voulons retrouver, Seigneur, cette confiance que tu as initiée. Seigneur, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Seigneur, conduis-nous encore par ton esprit. Seigneur, nous ne voulons pas non plus être dans l'inaction. Et nous voulons vraiment pratiquer tes commandements. Nous voulons porter les fardeaux les uns des autres. Nous voulons aller prier les uns pour les autres. Nous ne voulons pas tarder, Seigneur, dans la mise en action. Seigneur, conduis-nous. Je vous propose de prier les uns pour les autres. J'ai à cœur personnellement d'aller vers la famille Richard et de prier pour eux. Ceux qui veulent me joindre peuvent venir avec moi. Si certains ont besoin de prière, ils peuvent aller voir un frère, une sœur. Ceux qui ont besoin, parce qu'ils sont malades, peuvent s'avancer et voir parmi l'équipe de responsables aussi, pour avoir l'onction d'huile. S'il y a besoin aussi de confesser, peut-être que vous avez quelque chose qui est sur votre cœur, que vous n'arrivez pas à vous détacher, vous pouvez encore le confesser. Prenez un frère, prenez une sœur. Reconnaissons les disciples du Seigneur que le Seigneur nous a donnés à nos côtés pour qu'ensemble nous pratiquions la loi de Christ. Mettons-nous en action, mettons-nous en marche. Philippe, si tu veux bien mettre un petit fond musical, peut-être piano inspiré de Christophe, ce que tu as. Merci.
Seigneur, ce matin, t'interpelle et il te dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Frère, ma sœur, lève-toi. 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 Mets ta foi en action. Lève-toi. Koumi. Mets ta foi en action. Persévère, comme ça a été dit, avec cette femme atteinte de perte de sang pendant 12 ans. Peut-être que tu as prié beaucoup de fois pour ta situation, mais persévère, lève-toi. Viens, demande, parle à ton Dieu. Demande-lui. Il t'a posé la question, il t'a dit, que veux-tu que je fasse pour toi ? ma sœur, au fond, s'il te plaît, est-ce que ton bébé va mieux? Comment il se sent? Est-ce que tu veux qu'on prie pour lui? Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu veux t'approcher? Est-ce que tu veux qu'on prie pour toi? Est-ce que tu veux voir ta situation changer? confession, quelque chose à dire. Si ton cœur est trop lourd, tu peux aussi t'approcher. Tu peux parler. Tu peux extérioriser. Tu peux te confesser. Tu peux te libérer de ce poids, de ces chaînes, par ta confession, par la repentance. Si tu as peur du vide, c'est Jésus-Christ lui-même qui va venir prendre la place. Si tu as peur du manque, c'est Jésus-Christ lui-même qui viendra compléter ce manque, qui viendra le combler. Pour ça, il faut que tu parles. Pour ça, il faut que tu confesses. Pour ça, il faut que tu changes, afin de laisser l'Esprit du Seigneur te transformer à nouveau. Alors avance-toi, fais-le à ta place. Fais comme tu le ressens au fond de toi. Mais par la foi tu te lèves, par la foi tu marches. Par la foi. Ne laisse pas ta situation s'envenimer, empirer. Viens, lève-toi. Car Dieu te donne un avenir et une espérance. Amen.
Enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier, pour ceux de tout le monde. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Complet en lui, le mot parfait veut dire complet. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Seigneur Jésus, tu as tout accompli à la croix. Seigneur, s'il y a encore des choses en nous, nous voulons prendre le temps pour te confesser notre péché. Seigneur, s'il y a quelque chose encore en nous, peut-être même si un frère a quelque chose contre nous, une sœur a quelque chose contre nous. Nous voulons aller le voir et la voir. Nous voulons prendre ce temps. Seigneur, nous ne voulons pas manger de ce pain et boire de ce vin indignement. Nous voulons, Seigneur, bien voir que tu es parmi nous et que ce corps que nous formons ensemble est ton corps. Seigneur, mon frère, ma sœur, fais partie de ce corps. Seigneur, merci parce que tu as été une victime expiatoire, cette victime suprême, parfaite. Tu étais pure, sans tache, et tu as pris notre place. Seigneur, en toi, nous avons la guérison pour tout notre être. Seigneur, merci pour tout ce que tu opères en nous. Te bénissons, Seigneur, pour cette table. Nous nous rappelons, Seigneur. Nous nous rappelons ta mort. Nous nous rappelons ta mort, Seigneur. Et nous voulons nous la rappeler régulièrement, jour après jour, jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonne main. Cette main qui prend soin de ses enfants. Seigneur, merci parce que tu purifies notre cœur. Déjà, tu as dit à tes disciples qu'ils étaient purs par la parole qu'ils avaient entendue. Mais il fallait quelque chose en plus pour qu'ils soient complètement purs. Il fallait qu'ils se lavent les pieds les uns des autres. Qu'ils ne se voient pas au-dessus, mais qu'ils soient serviteurs les uns des autres. Seigneur, crée en nous cet esprit de serviteur. Qu'ensemble nous puissions, Seigneur, accomplir ta loi, à la fois pour ceux du dedans, mais aussi pour ceux du dehors, Seigneur, dont tu veux que nous puissions partager qui tu es. Nous voulons nous approcher de cette table, dignement, parce que tu as tout accompli. Parce que nous avons confessé nos péchés et tout est accompli. Merci Seigneur. Et je vous invite, tous et chacun, à venir vous approcher. Chacun est libre, en son cœur, de choisir de prendre ou pas du vin et du pain, mais approchez-vous, soyons ensemble, une famille entière. Complète. Pensons aussi à celles et ceux qui ne sont pas parmi nous physiquement, qui sont dans l'affliction. Apportons-les aussi devant le trône de grâce. Ce trône de la grâce qui est offert pour chacun d'entre nous. Portons-les. Et quand nous communions ensemble avec ce pain et ce vin, portons aussi nos frères et sœurs. Soyons unis, un même corps, une même âme. Un même esprit. Merci Jésus. Approchons-nous. Approchez-vous, approchez-vous. Regardez vos frères et sœurs, admirez la grâce que le Seigneur vous a faite de vous donner des frères et des sœurs comme celles et ceux qui sont devant vous. Merci Jésus.